Radio Okapi.
Naufrage de la baleinière Libende hier dans la rivière Lomami dans le territoire d'Opala. Plus de 800 sacs de riz blanc ont été engloutis par les eaux de cette rivière de la Grande Orientale. L'embarcation se rendait à Kisangani. Jean-Paul Onga Ngondi, élu à Beni, et Didier Kambale Lukongo, élu du territoire de Lubero, arrêté en février 2022 et en septembre 2021. Eze Kanedou, député provincial honoraire, demande au chef de l'État de s'impliquer pour leur libération. Les deux députés nationaux ont été arrêtés pour avoir critiqué négativement l'état de siège institué au Nord Kivu et en Ituri. Vous suivrez aussi vers la fin de ce journal Deogracias Mundenga, directeur général de l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires ICAV. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Plus de 800 sacs de riz blanc, cargaison de la baleinière Libende, ont été engloutis par les eaux de la rivière Lomami dans le territoire d'Opala, dans la Grande Orientale. L'accident s'est produit hier à 2 km d'Opala après que cette embarcation a quitté le beach pour se rendre à Kisangani. Selon les premières informations reçues de l'autorité territoriale, l'excès du tonnage en serait la cause principale. Le point avec Jacques Moukonkole.
Outre les produits agricoles, notamment plus de 800 sacs de riz, cette baleinière transportait également à son bord un certain nombre de passagers en partance pour Kisangani. Ceux-ci n'ont pas pu atteindre leur destination finale à cause du naufrage de l'embarcation. Celle-ci se retrouve dans les eaux profondes de la rivière Lomami alors qu'elle était à son deuxième voyage après son inauguration. D'après l'administrateur du territoire Médard Elongué, qui cite Madame la chargée des opérations fluviales d'Opala, la surcharge de la baleinière serait à l'origine de cet accident.
La soudure n'a pas été à la hauteur, donc il fallait renforcer la soudure parce que c'est une baleinière en métal. Vu le nombre de sacs et le tonnage, finalement, la soudure a cédé et cela a créé une sorte de naufrage.
Malgré les dommages matériels enregistrés, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Tous les passagers ont été secourus, précise l'administrateur du territoire d'Opala. Néanmoins, il craint les conséquences économiques de cet accident sur le marché local. Le riz d'Opala est en tout cas le plus prisé de toutes les autres céréales de la région. Sa carence éventuelle sur le marché est un coup dur pour de nombreux ménages, déclare un acteur de la société civile locale. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Deux députés provinciaux du Nord Kivu ont déjà passé plusieurs mois en détention à Kinshasa sans comparaître, déplore un acteur politique de Lubero. Jean-Paul Nga Ngondi, élu à Beni, et Didier Kambale Lukogo, élu du territoire de Lubero, ont été arrêtés respectivement en février 2022 et en septembre 2021 à la suite de leurs propos critiques envers l'état de siège institué dans les deux provinces de l'est du pays, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri. Le député provincial honoraire plaide leur cause auprès du président de la République, il lui demande de s'impliquer afin que ces deux députés provinciaux du Nord Kivu soient enfin libres. Les propos de Eze Kanendou sont recueillis par Bernard Danyangi.
Ces acteurs politiques et animateurs de la société civile ont été arrêtés à Goma avant d'être transférés à Kinshasa et suite d'avoir critiqué l'inefficacité de l'état de siège. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais été présentés devant leur juge naturel avis de connaître leur sort. Ils sont au total deux collègues députés provinciaux de la législative de 2018 et un réélu à la législative de 2023 arrêtés de suite d'avoir extériorisé leur opinion politique. Cette situation sonne de glace aux principes démocratiques et à l'état de droit prôné par le chef de l'État. C'est pourquoi nous sollicitons encore une fois l'implication personnelle du chef de l'État pour que ses compatriotes puissent recouvrer leur liberté.
Sur place au Nord Kivu, de nouveaux combats opposent depuis tôt ce mercredi une coalition des groupes armés Wazalendo aux combattants du 1-23 près du chef-lieu du territoire de Walikale. Selon nos sources sur place, les combattants Maïmaï ont attaqué vers 5 heures locales les hommes du 1-23 dans le village Kampala Bulambo, groupement Abakusu, secteur de Wanyanga. Aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Selon nos sources, la situation devient de plus en plus inquiétante autour de Walikale, où depuis 3 jours maintenant, les attaques des VDP Wazalendo Cabindo se multiplient. La situation sécuritaire est toujours volatile ce mercredi à Fataki et Djaïba, deux entités du territoire de Djougou en Ituri, où ont lieu les affrontements entre la milice Codeco et l'armée ougandaise déployée dans la zone depuis la semaine dernière. Des sources de sécurité renseignent que ces miliciens ont attaqué une position des FRDC après avoir mis le feu à plusieurs maisons abandonnées par les habitants. D'autres détails avec Jean-Claude Lokidile.
D'après nos sources, mardi, aux environs de 12 heures locales, la MONUSCO a été alertée par des tirs nourris et des mouvements suspects près de Djaïba, où se trouve un site de déplacés. En réponse, une patrouille de casques bleus a été déployée dans la zone. Sur place, les patrouilleurs ont constaté un échange de tirs entre les soldats des FADC et des miliciens de la Codeco qui tentaient une incursion. En collaboration avec les FRDC, les casques bleus de la MONUSCO ont sécurisé la zone, ce qui a obligé les insurgés à battre en retraite. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée. On signale cependant l'incendie de maisons abandonnées par des habitants qui ont quitté cette zone, cette entité, pour se mettre à l'abri dans d'autres endroits sécurisés, notamment à Boulé, une entité proche. Dans le cadre de son mandat de protection des civils, les soldats de la paix onusiens, en appui au FRDC, restent en état d'alerte, suivant de près l'évolution de la situation sur le terrain. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Pendant ce temps, le président du Sénat veut activer le suivi de la matérialisation des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. Jean-Michel Samalukonde est arrivé à Paris hier à la tête d'une délégation de quelques sénateurs et sénatrices, notamment le président des commissions Relations extérieures, Christophe Lutundula, et de la Défense, Sécurité et Frontières, José Mpanda. Il a échangé hier même avec son homologue français, Gérard Larcher, au Palais de Luxembourg à Paris, sur la situation sécuritaire et humanitaire grave provoquée par la guerre et la violation de l'intégrité territoriale dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise et le 1-23 AFC. On écoute les propos de Jean-Michel Samalukonde, choisi par Michel Kifindangoy.
Nous sommes d'abord revenus sur la question principale de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais le suivi que nous nous sommes venus faire ici, après d'abord la résolution 2773, qui a été votée à l'unanimité sous la plume de la France, allant dans les condamnations du Rwanda et de ses supplétifs et de ce qui se fait en République démocratique du Congo à l'est. Après ces échanges, nous sommes revenus sur la demande de l'appui que nous devons recevoir de tous nos partenaires, pour que nous allions dans la matérialisation des sanctions qui sont édictées. Parce que nous pensons que c'est l'une des voies qui va nous permettre d'arriver finalement à la résolution de ces conflits, tels que ça nous est dicté par les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, que ce soit l'Union africaine, la SADC, l'EAC, l'ONU, et même ici, ce que nous avons reçu, bien que nous ne faisons pas partie, de l'Union européenne, qui est venue aussi en appui aux sanctions qui ont été données.
À Lubumbashi, des présumés bandits et quelques biens volés ont été présentés hier au gouverneur du Haut-Katanga par le commissaire provincial de la police. Jacques Okiabula a encouragé la police à faire encore plus pour mettre hors d'état de nuire tous les malfrats. Il a promis d'envoyer tous ceux qui seront condamnés dans d'autres prisons du pays, car parmi ces présumés bandits se trouvent plusieurs repris de justice. Jean Gandou.
Ces présumés bandits, 28 au total, dont deux femmes, ont été pour la plupart arrêtés au quartier Bel Air, non loin du camp Major Vangu, dans la commune de Kampemba à Lubumbashi. D'après la police, parmi eux se trouvent 7 repris de justice. Ils sont auteurs de plusieurs forfaits, dont les tueries et le vol. Ils seraient impliqués dans la mort d'un motocycliste à Kamasaka, dans la commune annexe à Lubumbashi, et dans celle d'autres taximens moto dans la ville de Likasi. Parmi les biens volés et récupérés par la police, il y a notamment les appareils électroménagers et 3 véhicules. Un des véhicules a été volé en Zambie et c'est au moyen des GPS qu'il a été retrouvé dans la parcelle d'un des présumés bandits arrêtés. Et c'est justement là que les deux autres véhicules recherchés par la police étaient cachés. Les deux femmes rachètent et recueillent le bien volé. Les autres présumés bandits sont aussi auteurs de plusieurs méfaits à travers la ville. Notons qu'au mois de janvier dernier, ces 7 repris de justice étaient encore une fois de plus présentés au gouverneur des provinces. Voilà pourquoi Jacques Kiabula a demandé à la justice de bien jouer son rôle pour que la ville soit débarrassée de tous ceux qui mettent en mal la quiétude de la population.
Nous allons demander à ce que la justice puisse agir sans complaisance et que les fautifs soient jugés, condamnés et qu'ils soient placés en prison.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Kassai oriental, mines, résilience et développement à l'est de la RDC, ainsi que les conséquences du génocide sur la femme, thème de la journée sectorielle sur les mines organisée à l'hôtel Gloria de Mbujimayi par l'agence de communication dénommée RSE, Responsabilité sociétale des entreprises. Cette journée a connu la participation de quelques directeurs des entreprises publiques, dont notamment le directeur général de la société minière de Bakwanga, MIBA, et celui de l'Office congolais de contrôle. Un reportage de Esther Dalafina.
Au cours de cette journée, plusieurs thèmes ont été développés à l'intention des participants. Dr Prudence Massingou de la MIBA a parlé du réchauffement climatique, mines, guerre et santé.
Le temps des guerres, il y a des gaz qui sont émis avec les obus qui contribuent au réchauffement climatique. Il y a aussi l'exploitation minière, artisanale, qui contribue aussi au réchauffement climatique par l'émission des gaz à effet de serre. Voilà pourquoi nous avons choisi ces sujets pour parler des impacts de la pollution atmosphérique sur la santé.
Parmi les participantes, Scholastique Kabongo a apprécié le thème sur l'assainissement.
Les dames médecins nous ont vraiment donné comment nous comporter pour arriver à assainir nos milieux et regarder notre bonne santé.
Parmi les responsables des entreprises, les directeurs adjoints de l'Office congolais de contrôle OCC et les directeurs généraux de l'AMIBA ont rehaussé de leur présence à cette activité. Les raisons sont simples, d'après Mushia Kabeya, directrice générale RSC.
Même nous, les femmes, on a des questions à poser aux hommes. Donc, on aime quand l'homme aussi participe.
Signalons que cette activité est la deuxième du genre organisée dans la province du Kassai oriental. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Des médecins, chercheurs et de nombreux autres experts en santé s'engagent à travailler pour renforcer la lutte contre la tuberculose en RDC. Ils ont levé cette option au cours d'un atelier sur l'importance de la communication dans leur secteur sur cette maladie. Travaux organisés le lundi en marge de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars. Explication avec Plantin Yambenga.
Cette rencontre est une initiative d'Africa Communication Group en collaboration avec la Fondation Gates. Elle a planché sur plusieurs sujets, dont l'importance de la communication en santé et celle de communiquer les résultats des recherches en santé. Ces forums s'est également appesanti sur les plaidoyers dans la politique de santé en RDC. Spécialiste en communication en santé publique, Armel Niobe estime que les médecins ont intérêt à simplifier leur langage en évitant des termes techniques pour une bonne communication avec les patients.
Ça a été une journée de formation très intense. J'ai beaucoup apprécié la flexibilité et l'humilité des médecins, des chercheurs. Je les ai trouvés très désireux d'apprendre et de se remettre en question.
Docteur Aminata Diop, œuvrant dans la lutte contre la tuberculose, dit avoir compris que la communication est importante pour améliorer la prise en charge des patients tuberculeux. Elle permettra d'empêcher la contamination.
La journée de formation sur la tuberculose en Afrique s'est bien déroulée. Après cette journée déjà, on s'est rendu compte que ce qui bloque le plus concernant la tuberculose, c'était la prévention primaire. On a compris que pour atteindre nos objectifs, il faut qu'on communique plus et qu'on communique mieux, non seulement avec nos patients, mais aussi avec la communauté.
Cette année, la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose est commémorée sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose », s'engager, investir et agir concrètement.
Santé encore. Un projet de gratuité de soins de santé pour une durée de 2 mois est initié dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Ce projet de l'ONG MEDER concerne les aires de santé d'Ivatama et Kiamboho situées dans la zone de santé de Moussienene à environ 30 km au sud de Butembo. Ces aires de santé ont accueilli des milliers de déplacés, certains fuyant l'avancée du M23, d'autres les attaques des ADF. Objectif du projet, couvrir toutes les maladies afin de répondre aux besoins des populations locales, ainsi qu'à ceux des déplacés installés dans la région depuis quelques mois. Guylaine Kassassia.
Ces soins gratuits viennent soulager les souffrances des familles déplacées, mais aussi celles qui les ont accueillies. Ces dernières se retrouvent désormais privées de moyens de subsistance. La guerre persistante les empêche de vaquer librement à leurs activités, notamment l'accès aux champs situés dans les zones des combats, comme l'explique Vianney Kitwamba de la protection civile dans la zone de santé de Moussienene.
Cela vient répondre à la préoccupation de la population parce que ça fait longtemps que plusieurs ménages vulnérables ne suivent pas les soins et la plupart d'ailleurs des déplacés ne se rendaient pas aux soins dépourvus de l'argent, qui ne cesse en tout cas d'accuser plusieurs plaintes relatives aux soins de santé. Comme membres de la communauté, nous devons vraiment accompagner ces projets et nous disons que ces projets soient les bienvenus dans notre milieu, étant donné que ça va alléger la souffrance des milliers de déplacés déplacés.
Les deux aires de santé ciblées sont celles qui ont accueilli le plus grand nombre de déplacés, précise Vianney Kitwamba. Il plaide également pour que d'autres aires de santé bénéficient de cette initiative, car elles font face aux mêmes besoins. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au Soudan, l'armée a repris ce mercredi le contrôle de l'aéroport de Khartoum après avoir chassé les paramilitaires d'une grande partie de la capitale, infligeant un nouveau revers à leurs adversaires. L'armée a lancé en janvier une offensive pour reprendre la capitale après en avoir été chassée par les FSR après le début de la guerre en avril 2023. Cette guerre qui oppose les paramilitaires des FSR de Mohamed Hamdan Daglo à l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, deux anciens alliés devenus rivaux, a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné plus de 12 millions de personnes et provoquer une crise humanitaire majeure.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Deo Gracias Mundenga, directeur général de l'Institut supérieur des études agronomiques et vétérinaires, ICEAV. Il parle de la production agricole à la saison culturelle A, de son champ expérimental. Ces productions sont transformées et commercialisées pour la population locale. Ainsi, l'ICEAV plaide-t-il pour avoir un espace plus étendu pour bien mener ses activités. Le directeur général de l'ICEAV Maniema, professeur Deo Gracias Mundenga, s'entretient avec Florence Kizalunga.
Professeur Deo Gracias Mundenga, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous avez procédé à la récolte de votre champ expérimental de l'ICEAV. Dites-nous à combien est évaluée cette production.
Madame, pour le moment, je ne peux pas vous donner avec précision en termes de poids, en termes de nombre de sacs, ce que nous avons fait, parce que la récolte est progressive. Il y a une partie qui se trouve encore au champ, une autre partie est en train d'être séchée. Donc, j'ai saisi cette opportunité pour vous dire que, à part les maïs, en tout cas, l'ICEAV est aussi dans la culture d'artémisia et même de soya.
Comme vous êtes dans d'autres cultures, monsieur le professeur, avec toutes ces récoltes, qu'est-ce que vous faites avec ça?
Bon, quand on récolte, c'est pour servir. Vous savez très bien que la province du Maniema a un taux pas négligeable de malnutrition. Le maïs, par exemple, peut servir à ça, à nourrir les enfants surtout, et les personnes de troisième âge, on peut les nourrir. Il y a aussi l'artémisia que les gens consomment comme tisane. Ça aide dans la reconstitution de leur santé, et de même que le soya. Donc, l'ICEAV fait un effort pour participer à la lutte contre la malnutrition et au bien-être alimentaire finalement.
Alors quand vous avez donné votre premier c'est au gouverneur pour qu'il en fasse quoi avec?
Bon, d'abord je voudrais vous dire que c'est tout est parti de notre participation à l'atelier en rapport avec la relance de l'agriculture. C'est à cette occasion-là que j'avais promis à son excellence monsieur le gouverneur de venir présenter un échantillon de nos prémices de maïs. Et c'est là, c'est pas pour rien, c'est parce que son excellence monsieur le gouverneur a un vaste projet de relance de l'agriculture de la province du Maniema et c'est pour cela que nous sommes dit, nous présentons ça à son excellence pour lui montrer que l'ICEAV Maniema est vraiment à côté de lui pour la réalisation, pour la matérialisation de son projet de relance de l'agriculture. Donc le choix n'était pas un choix irréfléchi.
Alors monsieur le professeur, quand vous avez une grande quantité de maïs, une grande quantité d'artémisia, des soja, vous ne procédez pas à la transformation de toutes ces récoltes et voire même commercialiser ça?
Oui, je pense que l'ICEAV, Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires, respecte toutes les étapes. Après la récolte, l'ICEAV fait un effort pour la transformation et finalement avec le maïs par exemple, nous sommes dans la phase de commercialisation. Il en est de même avec l'artémisia et le soja. Nous avions semé, nous avions récolté et nous avions transformé. L'artémisia par exemple, nous avons mis en circulation des sachets, des tisanes pour la consommation en faveur de la population. Nous avons aussi avec le soya transformé cela en poudre de soya consommable de plusieurs manières, et même le maïs, j'en avais déjà parlé.
Alors, monsieur le professeur, qu'est-ce que l'ICEAV envisage après cette phase expérimentale?
Oui, vous avez bien trouvé, phase expérimentale. Nous envisageons maintenant d'étendre nos activités. Vous savez, la première chose, c'est la superficie. La superficie que nous avons pour le moment, elle est trop petite. Et cela, nous l'avons hérité ainsi, et nous sommes en train de toquer à des portes pour pouvoir trouver de l'espace où nous pouvons évoluer. Et de cela, nous devons aussi faire un effort pour trouver une main d'œuvre qui pourra nous aider ici dans tous les travaux ayant trait à l'agriculture. Et ça pourrait être aussi un avantage pour la population, parce que ça, c'est une façon de lutter aussi contre le chômage. Vous voyez que l'ICF, dans tout ce qu'il fait, il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que le corps, mais il y a aussi de l'emploi.
Quelles sont alors les prévisions de l'ICF en termes des quantités?
Ah, en termes de quantité, nous voudrions, pour les années à venir, essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons satisfaire à la demande de la population. Pour le moment, la quantification n'est pas encore là, parce que nous sommes en train d'élaborer maintenant notre plan quinquennal, et c'est dans ce plan quinquennal que nous allons tout estimer. Mais pour le moment, l'idée globale est que nous puissions participer de façon tout à fait satisfaisante à l'alimentation de la population du Maniema, derrière les efforts de notre gouverneur.
Professeur Deokassias Mundinga, merci.
Merci beaucoup, madame.
Merci à vous aussi d'avoir suivi ce journal qui arrive à sa fin. Un journal mis en onde par Jean-Claude Nsiala. À la présentation, c'était Noéla Luzitu Kabambi. La coordination est assurée par Élisée Chikota Chivueta et la supervision par Martin Sebujangwe.